C'est ici que débute votre parcours vers les ancêtres de l'île Perrot. Nous vous invitons à suivre les consignes de sécurité en ce qui a trait aux limites de vitesse permises et de bien vouloir respecter les propriétés privées. Il vous suffit, en suivant le plan du parcours de l'audioguide, d'appuyer sur le numéro de la piste ou de la borne reliée au lieu que vous désirez visiter. Examinez la plaque qui se trouve à votre gauche.
La plaque commémorative rappelle que la seigneurie de l'île Perrot a été concédée au gouverneur de Montréal, François-Marie Perrot, par l'intendant Jean Talon en 1672. Si vous l'examinez avec attention, vous remarquez en bas les armoiries du Québec, composées notamment de deux fleurs de lys soulignant l'origine française de la population, du léopard, qui rappelle les liens du Québec avec la Grande-Bretagne, et du rameau, avec trois feuilles d'érable, symbole propre au haut et au bas Canada. Sous l'écu, vous lirez la devise du Québec, « Je me souviens ».
Regardez devant vous.
L'île Perrot est entourée de lacs et de rivières. Face à nous, au sud, coule le fleuve Saint-Laurent, appelé autrefois « Rivière Cataraqui », sur laquelle circulaient parfois une centaine de canots par jour au début de la colonie. À notre droite, à l'ouest, les eaux du fleuve se mêlent à celles du lac des Deux-Montagnes par un bras de la rivière des Outaouais. À notre gauche, à l'est, le fleuve se perd dans le lac Saint-Louis. Au nord, de l'autre côté de l'île, à environ 6 km d'ici, on trouve l'autre bras de la rivière des Outaouais. Au 17e, 18e et 19e siècle, les voies d'eau sont les grands axes de transport qui se comparent à nos autoroutes d'aujourd'hui. Les gens voyagent en canot, ces canots d'écorce que les Européens ont appris à construire des Amérindiens. Avec les années, les embarcations deviennent de plus en plus grandes. Au début, elle transporte de 3 à 5 personnes, et vers 1800, il peut y avoir jusqu'à une vingtaine de voyageurs dans ces grands canots, en plus de marchandises de toutes sortes. Pendant plus de 100 ans, l'île Perrot a fourni un grand nombre de voyageurs de métier. Le cimetière de la Falaise a été choisi comme l'une des 7 merveilles de Vaudreuil-Soulanges. Il est unique en Amérique. C'est le fruit des recherches et des souhaits du curé Valérien Carrière lors de discussions avec son grand ami, le lieutenant-colonel Maillet, un coloré personnage. Monsieur Maillet, surnommé le colonel, est un grand voyageur, un homme qui avait fait la Première Guerre mondiale et qui, ensuite, pendant la Deuxième Guerre, a fondé les cadets, un groupe de jeunes pour supporter l'effort de guerre. Il voyage presque toute sa vie. Il fonde le Petit Journal, un hebdomadaire qui connaît un succès extraordinaire avec plus de 300 000 lecteurs dans sa période la plus féconde. C'est alors que le colonel Maillet subventionne la construction de la chapelle. Vous entendrez parler de lui à quelques reprises puisqu'il est un personnage marquant de l'île Perrot. Revenons au cimetière. Le curé Carrière s'inspire de vignobles de France souvent installés en palier, comme ici, et de certains cimetières qu'on rencontre en Europe. En 1953, le travail d'aménagement commence, en même temps que la construction de la chapelle du souvenir à notre droite. Les travaux se sont poursuivis pendant un ou deux ans. Le grand escalier a été installé en 1960 par M. François Mainville.
Si vous observez bien, au bas du cimetière, à gauche, vous trouverez un quai.
Il s'agit du quai Brideloup, qui était autrefois un quai fort fréquenté d'où les gens pouvaient traverser pour se rendre à Beauharnois. Jusqu'en 1930 environ, beaucoup d'activités économiques se passent entre l'île Perrot et Beauharnois. Ce commerce remonte au début des années 1800, alors que le territoire de Beauharnois relève de la paroisse de l'île Perrot. Les familles d'ici s'échangent leurs terres avec celles de l'autre côté du fleuve et prennent l'habitude de se rendre sur l'autre rive pour rencontrer le médecin. Dès cette époque, les enfants viennent au quai Bride-Loup pour se baigner, pour sauter, pour s'amuser.
À votre droite se trouve la chapelle du souvenir.
La chapelle du souvenir est une version idéalisée de celle que construisaient les habitants au XVIIe siècle. En 1953, les ouvriers utilisent des pierres originales déterrées sur le lot où était située la première chapelle de 1740, à la pointe du moulin. Sur la façade, à travers les pierres, le lieutenant-colonel Maillet a fait insérer des personnages couleur brique qu'il a rapportés de ses voyages en Europe. Entre 1955 et 1965, la chapelle sert à la messe dominicale. C'est une période au cours de laquelle les villégiateurs qui fréquentent l'île sont si nombreux durant l'été que l'on célèbre jusqu'à 10 messes le dimanche matin. La chapelle accueille une soixantaine de personnes.
Regardez en arrière de vous. En arrière de l'église se trouve le cimetière.
Il s'agit du premier cimetière qui, à l'origine, est entouré d'un mur de pierre, recouvert de planches sur presque 2 mètres de hauteur. De là vient l'expression d'un enclos paroissial, parce qu'il en fait le tour comme un enclos. L'impressionnante pierre tombale du lieutenant-colonel Maillet est tout près du transept de l'église.
Si vous sortez de votre voiture, vous pourrez voir la pierre tombale du lieutenant-colonel Maillet qui se trouve tout près du transept gauche de l'église.
L'église est construite en 1774 par l'entrepreneur Basil Proux, mais elle est de plus petite dimension, soit de 20 mètres de longueur. Elle mesure maintenant le double, soit 40 mètres. À cette époque, la notion d'architecte n'existe pas. Ce sont des maîtres charpentiers, des maîtres maçons qui conçoivent et entreprennent les travaux. En 1812, l'église est agrandie par l'ajout des transepts, du chœur et de la sacristie. En 1901, on profite de réparations majeures à la façade pour ajouter le portique. Des vents violents avaient fortement endommagé la façade et le clocher, qui sont refaits à neuf. C'est ce qui explique la date de 1901 inscrite en haut de la façade. La nouvelle façade, qui ajoute 3 mètres à l'église, est d'Alcide de Chaussée. Elle correspond à un style architectural que l'on trouve seulement dans la grande région de Montréal. L'unique cloche sera remplacée en 1925 par 3 nouvelles. Il y a à Notre-Dame de l'île Perrot un mystère qui plane depuis de nombreuses années. La cloche de 1925 a reposé pendant longtemps devant l'église, et puis elle a disparu. L'avez-vous vue ou entendue? En 1950, le gouvernement du Québec commence à contribuer à la préservation des monuments historiques par l'octroi de subventions. La fabrique entreprend des démarches à la fin des années 50 pour faire reconnaître l'église comme monument historique. C'est en 1961 que l'église est déclarée monument historique par le ministère des Affaires culturelles. Il s'agit d'une des rares églises de la grande région de Montréal dont la décoration intérieure, entièrement sculptée sur bois, est demeurée intacte. Elle témoigne du talent des artistes sculpteurs du début du 19e siècle. Si vous désirez en apprendre davantage sur la description de l'église, un panneau explicatif se trouve sur la façade droite. N'hésitez pas à la visiter avec un guide durant l'été et sur demande le reste de l'année. Pour cela, on s'adresse au presbytère.
Regardez le magnifique presbytère.
En 1780, Basil Proux construit aussi le presbytère, situé à droite de l'église. C'est l'édifice le plus grand de l'époque dans l'île Perrot. En plus de loger le curé, il sert de lieu de réunion pour les habitants. Au fil des années, le presbytère abrite une salle d'école, une bibliothèque paroissiale, puis le personnel de la paroisse, bedeaux, servantes, curés, quêteux de passage, etc. Jusqu'en 1788, l'église est desservie par l'abbé Pierre Benoît, à la fois curé des Cèdres et de l'île Perrot. Il habite donc à l'occasion au presbytère. Il est responsable d'une paroisse qui s'étend jusqu'à la frontière de l'Ontario et englobe le territoire de Beauharnois et toute la région de Soulanges vers la frontière américaine. L'abbé Denot fut par la suite nommé curé de Longueuil, puis consacré évêque. Il devient le premier évêque d'origine canadienne. En 1789, le presbytère est habité de façon permanente par le premier curé résident, le jeune abbé François Cazeneuve. En 1852, le presbytère est détruit par un incendie majeur, à un point tel qu'il faut attendre 6 ans avant qu'il soit réparé, tellement les coûts de reconstruction sont élevés. Les pierres de l'extérieur demeurent à peu près intactes, alors que l'entrepreneur réutilise tous les matériaux qui n'ont pas brûlé pour rebâtir l'intérieur au complet.
L'édifice sera habité par le curé Laurier Farmer de 1992 à 2006. En 2007, les paroisses Sainte-Jeanne de Chantal et Sainte-Rose de Lima sont fusionnées. Maintenant que nous avons fait le tour de l'enclos patrimonial, nous sommes presque prêts à partir à la découverte de trésors bien gardés. Dirigez-vous vers la chapelle pour descendre à votre gauche sur la rue de l'église.